qu'à plus forte raison périsse le souvenir de celui qui a persécuté et troublé tous les hommes et l'Église universelle, Pierre de Luna, appelé par quelques-uns Benoît XIII. Combien il a péché contre l'Église de Dieu et tout le peuple chrétien en entretenant, nourrissant et continuant le schisme et la division de l'Église. Déposition de Benoît XIII par le Concile de Constance le 26 juillet 1417.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En 1377, voici environ une soixantaine d'années que la papauté s'est installée à Avignon. Or, depuis déjà un moment, de nombreuses voix, dont peut-être la plus prestigieuse est Catherine de Sienne, s'élèvent pour demander au pontife de rentrer dans la ville de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est finalement ce que décide le pape Grégoire XI et il fait son entrée à Rome le 17 janvier 1377. Ayant trouvé la mort l'année suivante, un conclave est donc organisé. Ce conclave réussit, après bien des débats et sous la pression d'ailleurs de la foule romaine, à élire Bartolomeo Prignano, un Italien, qui prend le nom d'Urbain VI. Le problème est que les cardinaux français, et même des cardinaux non français, ont trouvé finalement que la pression contre le conclave avait été extrêmement importante. D'où le fait que Urbain VI n'est pas reconnu par l'ensemble du collège des cardinaux. Et que les cardinaux français organisent un deuxième conclave qui va élire Robert de Genève le 20 septembre sous le nom de Clément VII. Ainsi, à l'automne 1378, la chrétienté se trouve avec deux papes. Le pape Clément VII qui rejoint Avignon et Urbain VI qui reste à Rome. À partir de là, l'Europe va véritablement se déchirer dans une géopolitique marquée par la guerre de Cent Ans. Ainsi, le royaume de France soutient le pape d'Avignon. On peut imaginer donc que le royaume d'Angleterre soutient le pape de Rome. Le royaume de Naples soutenant le pape d'Avignon, eh bien, les républiques de Gênes, de Milan, de Venise soutiennent le pape de Rome. L'Écosse, adversaire de l'Angleterre, soutient le pape d'Avignon. Le royaume de Castille soutenant le pape d'Avignon, eh bien, le royaume du Portugal soutient le pape de Rome. Vous l'avez compris, le chaos politico-religieux est extrêmement important à la fin du XIVe siècle. Or, pour beaucoup, c'est évidemment un scandale pour la chrétienté qu'il puisse y avoir deux papes et deux obédiences. Aussi, on va essayer de trouver des solutions pour sortir de ce que l'on appelle le grand schisme d'Occident. La première solution, ce serait finalement la soustraction d'obédience. C'est-à-dire pour obliger les papes à se retirer pour trouver un candidat de compromis, eh bien, on se retire de l'obédience pontificale ou de Rome ou d'Avignon. C'est ce que décide, par exemple, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, oncle du roi Charles VI, qui, en 1398, avec l'accord de l'épiscopat du royaume de France, décide de se retirer de l'autorité du pape d'Avignon. La Castille et le royaume de Naples font de même. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que le royaume d'Angleterre fasse de même avec la papauté de Rome. Or, comme ce n'est pas le cas, eh bien la France revient à l'obédience avignonnaise en 1404. Donc, première solution, échec. Deuxième solution, c'est peut-être le concile, c'est-à-dire amener les pères conciliaires réunis à démettre de leurs fonctions les pontifes. À Pise est organisé, de mars à août 1409, un concile réunissant à peu près 500 prélats, ce qui est quand même un effectif significatif. À ce moment-là, les évêques réunis à Pise décident de déposer Jean XXIII, qui est à Avignon, et Benoît XIII, qui est à Rome. Et ils élisent donc Alexandre V. Le problème qui se pose, c'est que dans un premier temps, aucun de ces papes ne se retire véritablement. Donc, au lieu de régler la question, on va passer finalement à trois papes. Le scandale devient majeur pour toute la chrétienté.
Stella nova fra la gente, t'apparuisti novamente.
Face à cet échec, on tente à nouveau une solution par le concile, puisque en 1414, l'empereur du Saint-Empire, Sigismond, convoque un nouveau concile à Constance. Par le décret Haec Sancta, les pères conciliaires se proclament comme étant la plus haute autorité de l'Église. Ainsi, ils décident la déposition de Jean XXIII, l'abdication de Grégoire XII et la déposition de Benoît XIII. Effectivement, Grégoire XII est le seul qui accepte, alors qu'il est à Rome, d'abdiquer. C'est le seul d'ailleurs qui comprenne peut-être véritablement le haut intérêt pour l'Église de régler la question du schisme. Jean XXIII résistera un peu plus, mais finalement, sous la pression en particulier de l'Empire, eh bien, il finira par déposer la tiare pontificale. Quant à Benoît XIII, eh bien, il continuera à se proclamer pontife de l'Église universelle. Il s'enfermera dans la péninsule de Peñíscola, en Espagne, où il va mourir en 1423, après avoir provoqué une ultime crise dans la chrétienté déchirée. Le pape de la réunification, c'est Martin V, qui va être élu en 1417 et qui va réussir à réunifier la chrétienté sous son autorité. Mais il est bien évident que ce grand schisme, résumé à grands traits, va laisser des traces pour l'histoire de la chrétienté tout au long du XVe siècle. D'abord, le grand schisme a indéniablement favorisé l'affirmation des églises nationales. Ainsi, en France, la monarchie a favorisé, en 1438, ce que l'on a appelé la pragmatique sanction de Bourges, c'est-à-dire la formation d'une église nationale qui, certes, dépend spirituellement du pouvoir pontifical, mais qui est avant tout fidèle au roi. Le souverain, d'ailleurs, va pratiquer la recommandation pour la nomination des évêchés et des abbayes en attendant l'investiture spirituelle du pontife. Et on commence à voir apparaître une idée qui va être extrêmement forte au XVe siècle, la supériorité du concile sur le pouvoir pontifical. En effet, la deuxième caractéristique et deuxième conséquence du grand schisme, c'est ce qu'on a appelé le conciliarisme. C'est-à-dire que l'Église ne peut être gouvernée qu'avec le concile, qui est jugé supérieur au pape par le décret Haec Sancta de 1415. Le décret Frequens de 1417 prévoit d'ailleurs des réunions régulières de concile. Théoriquement, tous les 5 ans, en fait, avec un laps de temps un peu plus important, mais des conciles vont se réunir à Sienne en 1423, à Bâle en 1431, où le pape Eugène IV sera obligé de reconnaître la supériorité du concile. Et enfin, à Florence en 1438-1439, où on assistera à une très éphémère réunion des églises orientales et catholiques. Par contre, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, la papauté retrouvera suffisamment de force pour éviter la convocation de conciles. Mais plus profondément dans la société chrétienne, le grand schisme provoque des contestations. On se plaint de plus en plus de l'absentéisme des clercs, du concubinage, y compris au sommet de l'Église. Pie II a 2 filles, Innocent VIII aura 2 fils. Par contre, on assiste également à la popularité grandissante des ordres mendiants. Entre 1330 et 1550, 140 couvents de dominicains et de franciscains sont fondés. Et puis au sein même du clergé, des membres critiquent l'attitude pontificale, critiquent la crise traversée par l'Église. C'est le cas de John Wycliffe, prêtre et enseignant à Oxford, qui explique que seule la grâce permet de former l'Église et concerne tous les chrétiens. Il va même jusqu'à proposer la désignation du pape par tirage au sort. On retrouve également une idée extrêmement forte de conciliarisme chez Jean Hus, prêtre et professeur à l'université de Prague. Ainsi, nous voyons progressivement arriver une contestation au sein même de l'Église, et peut-être que sans le savoir bien sûr, ces hommes annonçaient la réforme de Luther.